bonjour à chacun. C'est un plaisir de vous apporter ce message aujourd'hui. On est bien dimanche 14 août, mais c'est pas depuis l'église de Cossonay que je vous fais cette prédication, bien que je l'ai donnée ce matin. C'est depuis chez moi, à Morges, où il y a eu un petit problème technique et l'enregistrement a eu lieu, mais rien n'a été enregistré. J'avais quand même à cœur de pouvoir vous transmettre de façon durable ce qui a été déposé sur mon cœur. On a eu la chance avec Toda, l'association, la maison de prière à Vuron, de vivre 3 jours, c'est le 4e aujourd'hui, 3 jours de camp, dédié à un thème bien particulier, celui de la consécration. Et le message d'aujourd'hui va poursuivre et terminer cette vue d'ensemble de ce sujet de la consécration. Alors qu'est-ce qu'on entend par là avec ce terme ? Eh bien, il y a deux définitions que l'on peut trouver dans le langage courant. Premièrement, une définition religieuse, c'est le fait de rendre sacré en dédiant quelque chose à Dieu. On sépare une personne, un objet, un lieu, et on le dédie entièrement à Dieu. On le rend sacré pour Dieu. Plus communément, on a également une définition du mot consacré dans le sens tout simple de destiner quelque chose ou quelqu'un de nouveau à un usage. Et là, je donnais lors du camp l'exemple d'une louche, d'une grosse cuillère qui est consacrée au service de la soupe. On peut tenter de prendre la cuillère pour manger son yogourt du soir, mais ça n'est pas son usage premier. Elle n'a pas été consacrée, créée pour cela. Mais de même, plus tard dans la Bible, on voit aussi le tabernacle ou le temple. Ce sont des lieux, des bâtiments qui sont consacrés à un usage particulier. Dans le double sens, on rend sacré le temple en le dédiant à Dieu. Et on destine tout simplement le temple au service de l'Éternel et de sa gloire. Alors la question se pose maintenant à nous. Quel est notre consécration? Quel est notre usage? À quoi Dieu veut nous consacrer? Et je vous propose, lors de cette prédication, eh bien de tenter de répondre à cette question en nous basant sur la Bible, sur une histoire qui est précisément celle de la consécration et qui est racontée du début à la fin. Et dans cette histoire, pour présenter notre vocation, pour présenter notre appel, notre usage, la Bible parle d'une figure, de personnage, d'un office bien particulier, qui est celui des prêtres. C'est ce qu'on a vu lors de ces quelques jours de camp avec Toda, et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec tout le passage depuis la Genèse. Parce que premièrement, on va regarder l'appel originel de Dieu sur l'humanité pour que l'homme et la femme soient des prêtres royaux, des représentants du Créateur sur terre. Puis nous regarderons brièvement la partie de la rébellion, quand l'humanité renonce à suivre le plan que Dieu a tracé pour elle et prend une consécration différente pour soi-même. Mais en parallèle de cette rébellion, nous voyons la fidélité de Dieu pour restaurer cette bénédiction originelle. Puis l'arrivée de Jésus dans l'histoire comme le véritable grand prêtre royal. Et puis finalement, notre place à nous aujourd'hui, corps de Christ, corps du grand prêtre sur terre, pour poursuivre les œuvres qu'il a débutées ici-bas. Alors, tout début, l'idéal, la consécration originelle. Il faut savoir que le prêtre, dans son rôle le plus essentiel, représente Dieu à l'humanité. Il est une sorte d'intermédiaire et se déplace à la fois dans l'espace terrestre et céleste et sert la gloire de Dieu sur terre en le représentant. On voit cette vocation originelle tout au début, dans les premières pages de la Bible, au chapitre 1 de la Genèse. Verset 27, il nous est dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dans cet appel-là, dans ce verset qui fonde l'identité de l'humain, il y a un mot qui revient. Image. Fait à l'image de Dieu. C'est une formulation qu'on connaît bien dans les milieux chrétiens. Qu'est-ce qui est dit ici? Le mot hébreu, originel, c'est celui de tselem. C'est le même terme qui est utilisé par les auteurs bibliques plus tard dans l'Ancien Testament pour parler de statue ou d'idole. Et on voit à différents passages les moments où le temple païen dans le pays de Canaan est décrit. On parle de statues et d'idoles qui remplissent ces temples. C'est le même mot, c'est le mot tselem. Comment se fait-il que Dieu parle ici de tselem? D'idole, hein? Sommes-nous les idoles de Dieu? Bien évidemment pas. Ce terme-là a été corrompu plus tard. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces statues-là, ces idoles dans les temples, fonctionnaient comme une représentation de la divinité. Ils étaient l'incarnation du Dieu sur terre. Et c'était à cet endroit-là que les fidèles, hommes et femmes croyants, adorant ce Dieu-là, se présentaient devant ce Dieu, apportaient leur offrande, recevaient en retour ce qu'ils espéraient recevoir. Il y avait un lieu d'interaction entre le Dieu et l'homme. Et l'humain est précisément ce tselem. L'humain est, dans le plan original de Dieu, l'incarnation de Dieu sur terre. Il est appelé à représenter Dieu, à exercer son autorité selon sa volonté, à régner ici-bas. Il est appelé à être l'image de Dieu, le prêtre royal dans le temple de la création. Ce mandat va être précisé puisque le chapitre suivant de la Genèse nous montre que Dieu prit l'homme, au verset 15, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive. Et le garde. Dieu précise à partir de cette identité ce qui est attendu des prêtres qu'il a placés dans son jardin. Le mot cultiver est à nouveau central. Ici, cultiver et garde. Cultiver en hébreu, le mot est dit avad, qui est parfois traduit par travailler, parfois par servir, ou parfois encore par adorer. Notre consécration, le mandat qui découle de notre identité d'être humain à l'image de Dieu, notre consécration était censée être un acte de service et d'adoration et de collaboration au projet de Dieu pour le monde. Il a placé l'être humain dans son jardin pour le travailler de façon très matérielle, c'est vrai. Mais ceci nous montre que l'appel est bien plus grand. L'appel pour l'humain, en étant placé dans le jardin que Dieu a prévu, c'est de servir selon ce que les prêtres sont appelés à faire. Parce que ces termes-là vont être justement utilisés plus tard dans la description des activités des Lévites, les prêtres, les descendants d'Aaron, qui travailleront dans le sanctuaire et dans le tabernacle. La création tout entière est de ce point de vue-là en Genèse 2, vue comme le tabernacle de Dieu. Et les êtres humains servent sa gloire dans cet espace-là. C'est notre appel originel. Dieu nous sépare du reste de la création pour cette consécration-là. Vous connaissez certainement la suite de l'histoire, les choses se passent mal. Il y a une rébellion très concrète contre l'appel de Dieu. Et la vocation est perdue. La consécration est perdue. En Genèse 3, Versets 23 à 24, nous voyons les conséquences pour l'humanité. Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Deux conséquences. Premièrement, le jardin est fermé. Deux créatures sont placées pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu retire l'être humain du lieu qui représentait l'idéal. Ce jardin où le ciel rencontrait la terre, où le Créateur interagissait directement avec les êtres humains, il n'est plus accessible. Et ces chérubins, pour la première fois ici mentionnés, font office de portes verrouillées. Ils gardent l'accès à la présence de Dieu. Elle est fermée. Et la deuxième conséquence, c'est que l'humanité est errante et perdue. L'être humain est chassé, il n'a plus accès, mais il a toujours le souvenir, il a toujours ce désir. Et toute l'histoire qui va suivre sera ce dilemme entre le désir du retour et l'incapacité de ce retour. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Juste avant ces versets, l'Éternel dit quelque chose au serpent, à la créature qui a engendré cette rébellion. « Je mettrai, » au verset 15, « je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, et celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Dieu promet déjà ici de confronter le mal. On voit dans ce verset la prophétie qui dessine les contours d'un fils de l'homme et de la femme. Le fils de la femme ici, une personne qui, semble-t-il, pourra résister à l'appel de la rébellion et vivre selon la consécration voulue par Dieu. Et à partir de cette prophétie et de l'exil de l'humanité, toute l'histoire biblique s'ouvre. Et nous avons vu comment Dieu, nous avons vu durant ces messages précédents à Toda, nous avons vu comment Dieu va préciser cette prophétie et intervenir dans l'histoire en créant à chaque étape une attente toujours plus grande d'un sauveur, d'une personne, fils de la femme qui pourra, descendance de la femme, qui pourra vaincre l'ennemi, résister à la rébellion et à la tentation d'une autre consécration et restaurer les bénédictions d'Éden, ce lieu où le ciel rejoint la terre et où la gloire de Dieu demeure. Quelqu'un qui pourra ouvrir ces portes verrouillées. Et au travers de tout l'Ancien Testament, nous nous sommes arrêtés sur le personnage d'Abraham et l'appel qui est sur sa vie à bénir les nations. Le même verbe que Dieu utilise pour bénir Adam et Ève dans leur mandat. Abraham est béni de Dieu pour bénir les nations. Serait-ce lui, ce fils de l'homme, qui va permettre à Israël et aux nations de retrouver le jardin? Moïse, qui reçoit des visions, la vision du temple céleste qu'il va ensuite construire des propres mains d'Israël pour bénir et permettre à Dieu de demeurer au milieu de son peuple servi par la prêtrise d'Aaron et de toute la tribu de Lévi. Et puis David aussi, le roi prêtre, qui pour une des toutes premières fois dans l'histoire biblique combine ce double titre de roi et de prêtre et qui va installer l'arche de l'Alliance, le lieu de la présence de Dieu à Jérusalem, la capitale. Et nous avons vu comme tous ces personnages et toutes ces institutions sont des figures justes qui anticipent l'arrivée d'un grand prêtre roi. Mais eux-mêmes ne sont pas ce sauveur attendu. Eux-mêmes ne peuvent pas ramener l'humanité à la bénédiction d'Éden. Ils sont, comme les auteurs du Nouveau Testament le mentionneront, ils sont les ombres des choses à venir. Ils sont les ombres des choses à venir. Toutes ces institutions, ces personnages-là, cette histoire de l'Ancien Testament pointait vers une réalité plus grande, la réalité de Jésus. C'est lui, C'est lui qui, en prenant toutes ses prophéties, en les accomplissant pleinement en lui, va apporter la réalité et la lumière et non plus juste les ombres. Et donc, dans le message de hier à Toda, nous avons vu comment dans les évangiles, des paroles, des actions sont réalisées par Jésus et qui sont des actes et des paroles qui sont révélatrices d'une identité particulière, l'identité du grand prêtre. Jésus, l'homme consacré à représenter Dieu. Dans les actions qu'il fait, il guérit, il pardonne, il purifie les lépreux. Il ne fait, il le dira lui-même, il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Toutes ces caractéristiques d'une image de Dieu resplendissant de la gloire du Père sur terre. Et on s'est arrêté en particulier sur le récit de la transfiguration. Ce moment où Jésus gravit une montagne, le septième jour, il nous est dit, avec trois de ses disciples, et il est révélé à ceux qui sont présents, et plus tard, à la foule de tous les auditeurs et des lecteurs qui découvrent dans cette histoire une facette cachée de Jésus. Ou pourrait-on dire même la véritable identité de Jésus. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette transfiguration ? On voit que son visage resplendit comme le soleil, que ses vêtements deviennent blancs comme la lumière et qu'il est couvert par une nuée lumineuse. Et dans la pensée hébraïque et pour les Juifs qui entendaient cette histoire et qui connaissent bien la Torah, ça ne faisait aucun doute que ce moment-là est un moment qui fait écho à la montée de Moïse sur le mont Sinaï pour recevoir les visions du temple céleste et de celui qui est appelé à servir dans ce temple. Il voit Moïse, les habits du grand prêtre qui, vêtu d'or et de pierres précieuses, est appelé à faire le service consacré dans le temple. Et des siècles plus tard, Jésus, sur une montagne, entouré d'une nuée, reçoit l'approbation du Père. Il est révélé aux yeux des disciples, aux yeux d'Israël et aux yeux du monde comme le grand prêtre que l'humanité tout entière attendait depuis l'exil. Et nous avons vu ensuite que les affirmations de Jésus sur son identité ont été une offense pour ceux qui, justement à l'époque, remplissaient cette fonction de prêtre. En affirmant être le grand prêtre, issu non pas de la tribu de Lévi, mais de la descendance de Melchisédek, et on s'est arrêté sur cette figure aussi, en affirmant cela, il met un terme à la lignée d'Aaron. Il est maintenant le grand prêtre qui représente l'humanité. Et cette confrontation va escalader jusqu'à la crucifixion. Et c'est de cette manière-là que le grand prêtre est couronné, en apportant un sacrifice, non pas différent de lui, mais sa propre vie comme un sacrifice pour couvrir les fautes de l'humanité exilée. Et il est installé, grand prêtre, représentant l'humanité devant Dieu. En intercédant pour nous aujourd'hui, encore, il remplit cette fonction de représentation à la fois de l'humanité devant Dieu en apportant nos requêtes et nos besoins au Père et à la fois de représentant de Dieu à l'humanité. Et on s'est arrêté sur ce passage dans Hébreux, l'épître aux Hébreux qui décrit cette nouvelle figure du grand prêtre. Au chapitre 10, les versets 19 et 22 nous interpellent. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle est vivante. Il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous sommes maintenant appelés à nous approcher pour le servir dans une consécration restaurée. Qu'est-ce que cela implique ? Qu'est-ce que cela implique pour le corps du Christ ? Et c'est ce que nous allons voir dans la suite et la fin de ce message. Maintenant que nous sommes restaurés et que notre consécration est à nouveau possible, qu'est-ce que cela implique ? pour le corps du grand prêtre sur terre. Car Jésus est parti au ciel. L'ascension présente Jésus, roi et prêtre, allant servir Dieu dans le temple céleste. Et le corps du Christ sur terre poursuit ses activités. Les auteurs du Nouveau Testament qui vont encourager l'Église à servir en fonction de leur identité vont s'appuyer sur le langage sacerdotal en utilisant toute la richesse des métaphores et de l'histoire de l'Ancien Testament en parlant de temple, de sacrifice, de ministère sacerdotal. Et le premier événement associé à cette image est vécu très rapidement après le départ de Jésus. On le lit au tout début du livre des Actes, enfin au chapitre 2, les quatre premiers versets. Et voici ce qui nous est dit. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Être rempli du Saint-Esprit. La description de cette scène n'est absolument pas anodine. Ce qui est visualisé, de façon même tangible, le Saint-Esprit est une allusion très claire aux histoires de l'Ancien Testament, montrant la gloire de Dieu remplissant la demeure qu'il avait choisie pour s'établir. Il descend premièrement comme une colonne de feu sur la montagne de Sinaï, là il rencontre le peuple d'Israël. Mais plus tard, il rentrera dans le tabernacle comme une colonne de fumée et de feu. Puis plus tard, lorsque Salomon consacre le temple, c'est de la même manière qu'il prend place au milieu de son peuple dans cette demeure qui lui est consacrée. Et alors que le grand prêtre Jésus est retourné au ciel, ses disciples, son Église, son corps sur terre sont eux-mêmes, de la même façon que dans l'Ancien Testament, remplis par une nuée et le feu descend sur eux. C'est leur consécration. Dieu consacre les croyants à être de petits temples, des petits temples mobiles, à servir ce Dieu là où ils iront, à porter la présence du Dieu créateur de toutes choses, peu importe où ils se trouveront. Dieu a établi sa demeure en eux. Et cette Pentecôte est une sorte de concrétisation de la consécration originelle. Parce que non seulement ils deviennent des mini-temples, mais si cette réalité-là est vraiment concrète, cela implique que dans le temple, une personne doit effectuer le service. Et les auteurs du Nouveau Testament qui ont médité cette réalité et vécu la puissance de cette consécration vont plus tard s'adresser aux croyants en les invitant à entrer dans cette destinée, à réaliser ce mandat. Il se trouve qu'en ce jour-là, décrit dans Acte 2, un homme qui s'appelle Pierre est présent. Et des années plus tard, il écrira à une communauté de croyants. Dans son épître, au chapitre 2, il leur dira « Vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Un groupe de prêtres saints. Vous êtes devenus des prêtres remplis de la présence de Dieu et vous servez dans le temple. C'est très particulier pour nous toutes ces images, on est bien d'accord. Je suis moi-même parfois à lutter pour mettre des catégories. Est-ce qu'on est temple? Est-ce qu'on est sacrifice? D'autres diront qu'il faut être des sacrifices vivants. Est-ce qu'on est des prêtres? Ça n'est pas censé être complètement dans des catégories bien séparées. C'est une métaphore riche pour nous montrer le sens de notre consécration. Mais Pierre va plus loin. Dans ce verset-là, il va plus loin et propose de vivre la conséquence de cette consécration retrouvée afin d'offrir des sacrifices spirituels. des sacrifices spirituels. Qui d'autre que des prêtres peuvent remplir cette fonction de sacrificateur? Et il se trouve qu'à l'époque où il écrit cela, la plupart des croyants ne sont pas prêtres. Ils sont des marchands, des artisans, ils sont pêcheurs, enfin voilà, des citoyens ou des personnes qui à l'époque vivaient des vies somme toute banales. Mais ils sont appelés pourtant à apporter des sacrifices pour rentrer dans leur destinée de prêtres royaux. Alors, est-ce que cela veut dire que ils doivent compléter le sacrifice de Christ? Est-ce que le sacrifice de Jésus n'a pas accompli toute l'ancienne alliance et ces sacrifices-là ne sont plus nécessaires? Pourquoi est-ce que l'auteur en parle de cette manière-là? Ce n'est évidemment pas pour remplacer le sacrifice de Christ. Mais un autre passage, d'une autre épître, nous explique en particulier ce qui est entendu par ces sacrifices. Et dans l'épître aux Hébreux, chapitre 13, les versets 15 et 16, nous lisons « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux ici appelle les disciples à effectuer trois types de sacrifices. Et on va les regarder brièvement ensemble. Premièrement, le sacrifice de louange. Puis deuxièmement, faire le bien et s'entraider. Sacrifice de louange. Comme des prêtres qui offrent à Dieu dans le temple des cantiques et qui chantent nuit et jour les louanges de celui qui a créé toute chose, nous sommes appelés à apporter un culte, à le servir par notre chant. Nous sommes appelés à saisir la réalité qui nous entoure et à la transformer, à la manufacturer en quelque chose qui apporte la gloire à Dieu, à lui rendre gloire pour toute chose. C'est là évidemment un rappel aussi de notre mandat à travailler avad, le terme hébreu dans la Genèse 2, c'est-à-dire de le servir et de l'adorer, à prendre la réalité qui nous entoure et à ne pas en faire juste un dû, mais à rendre gloire à l'Éternel. Deuxièmement, mais c'est toujours dans le même sacrifice, l'auteur précise ce qu'il entend par sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui le reconnaissent publiquement, qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et c'est un appel à vivre notre foi publiquement. Nous n'avons pas une foi privée, nous n'avons pas une foi cachée. Et cette idée de public, cette idée de visible, nous rappelle bien entendu l'image de Dieu. Si nous sommes une image, c'est pour rayonner. C'est pour que cette image soit visible. Et nous ne sommes pas appelés à rayonner uniquement face à notre miroir ou uniquement dans un lieu bien précis appelé l'église entre quatre murs. Non, nous représentons Dieu. Et en nous, Dieu s'incarne dans le monde pour que sa présence l'envahisse. Une foi publique. Les images de Dieu. Et la manière de le représenter, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ici le précise par les deux sacrifices suivants que je mets ensemble, faire le bien et s'entraider, à l'image de notre grand prêtre qui s'est donné lui-même pour nous. Nous sommes appelés à offrir nos vies et à témoigner de sa générosité, à faire le bien autour de nous, à l'image de Jésus qui guérissait, qui donnait, qui pardonnait, qui encourageait. Nous sommes appelés à témoigner de cette générosité. Et ce sont là les actions de prêtres sur terre, les prêtres du Dieu qui témoignent visiblement, publiquement, être les images du Père. Alors, est-ce que ce sont vraiment des sacrifices, hein? Est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend cela juste de façon allégorique? Non. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est à la fois une allusion aux métaphores, à l'histoire de l'Ancien Testament, mais c'est aussi, au premier sens, un vrai sacrifice. À l'époque où l'Épître est écrite, et elle est d'ailleurs écrite pour encourager des chrétiens qui sont persécutés, reconnaître publiquement appartenir à Jésus plutôt qu'à l'empereur pouvait tout à fait signifier la mort. Ça pouvait tout à fait signifier offrir sa vie. Et puis faire le bien et s'entraider implique parfois, voire même toujours, à sacrifier une partie de son temps, à sacrifier une partie de ses ressources et de son confort. Et c'est là la réalité. Les prêtres ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour celui dont ils sont l'image. Ils vivent pour celui qui a lui-même donné sa vie pour eux. Et leur récompense est tout autre. Et c'est la conclusion de ce verset. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous vivons pour le plaisir de Dieu. Et j'ai conscience que c'est une phrase qui peut sonner un petit peu comme une formule facile, mais il y a une profondeur derrière cela, découvrir le plaisir de Dieu en vivant pour lui. Une vie que nous sommes appelés donc maintenant à vivre à l'image de notre grand prêtre, mais cet appel-là et cette consécration n'est pas une consécration temporaire. C'est une consécration appelée à durer pour l'éternité. Je vous ai dit que cette histoire de la consécration touche toute la Bible. Elle traverse toute la Bible, de la première à la dernière page. Nous pouvons véritablement lire la Bible au travers de cette histoire-là. Et nous avons commencé ce message avec le premier chapitre de la Bible et nous le terminerons avec le dernier. Car ce que l'on retrouve dans la vision d'éternité, c'est notre mandat restauré et parfaitement vécu. Dans Apocalypse 22, les versets 2 et 3, on nous dit « Au milieu de la place de la ville, et entre les deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie. » Tiens, l'arbre de vie, celui qu'on a vu au milieu du jardin, qui était caché par les deux chérubins. Au milieu de la ville se trouve l'arbre de la vie. Cet arbre produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Il n'y aura plus de malédiction. Vous rappelez, c'est l'inversion complète de la situation originelle où Dieu bénit Adam et Ève. Dans le jardin, il n'y a que bénédiction et l'humanité vit de la bénédiction de Dieu. Eh bien, dans l'éternité, il n'y aura plus que bénédiction. La malédiction aura disparu. Et ce qu'on y voit finalement, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Lui rendront un culte. Ce terme-là, qui en grec est un seul mot, c'est l'équivalent, c'est le pendant grec du mot, du verbe avad en hébreu. Travailler, servir, adorer. Les serviteurs de l'agneau et de Dieu dans l'éternité lui rendront un culte, feront office de prêtre. Notre mandat durera dans l'éternité. Voilà l'histoire qui est la nôtre. Voilà cette histoire de la consécration. Nous avons été faits pour lui, pour le servir, pour le présenter. Elle peut nous paraître immense. Elle peut nous paraître totalement déconnectée de notre quotidien et rester juste une belle histoire. Il se trouve que demain, nos semaines vont reprendre. Notre activité professionnelle ou familiale va se poursuivre, la vie active reprend ses droits et nous pourrions garder cette histoire de notre consécration comme ce qu'elle est, une belle histoire, et puis de temps en temps être encouragé par cela mais ne rien en faire. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Jésus nous a ouvert un chemin. Ne restons pas sur un autre chemin. Vous savez que lorsque Jésus a expiré son dernier souffle. Le rideau qui, dans le temple, séparait l'Arche de l'Alliance, le lieu de la présence de Dieu, de tout le reste de l'humanité, du reste du temple, du reste de Jérusalem, puis du monde, ce rideau-là s'est déchiré. Et vous savez ce qui était représenté sur ce rideau ? Des chérubins. Ces mêmes créatures qui, dans la Genèse 3, sont placées par Dieu pour garder l'accès à l'arbre de la vie. Ces chérubins font place à la présence de Dieu qui envahit le monde. Le voile est déchiré et maintenant nous sommes appelés à nous approcher. À reprendre cette interpellation de l'Épître aux Hébreux. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Soyons conscient de ce privilège de connaître et de rentrer dans la présence de celui qui nous a créés et sauvés. Soyons une humanité qui reflète l'image que Dieu a mise sur nous, l'image de notre Père, et servons-le dans le monde, dans ce monde qui est son temple, le lieu qui sera un jour couvert par la connaissance de la gloire de Dieu, comme la surface des mers est couverte par l'eau. Servons-le, adorons-le, travaillons pour sa gloire. Faisons le bien autour de nous. Aimons-nous les uns les autres. Soyons les prêtres qui représentent Dieu ici-bas. Il n'y aura pas de consécration en dehors de celui qui a donné les conditions de cette consécration. Et c'est pourquoi je voulais vous inviter lors de ce culte à poursuivre ce temps par un temps de louange et à, dans notre cœur, déclarer que nous sommes à lui, que notre consécration, c'est la sienne. Et que nous servons sa gloire, et que c'est notre destinée à tout jamais. Et de prendre cet acte très concret, d'adorer celui qui a rendu tout cela possible. Je vais ici même aussi terminer par la prière, par rapport à ce message. Seigneur, je te remercie de ce que tu as tout accompli. Je te remercie de ce que tes standards, après notre rébellion, n'ont pas été adaptés. Tu as décidé de rester ce Dieu parfait. Et tu as décidé que le mieux pour l'humanité serait de retrouver l'accès à ta présence. Et tu as créé par toi, Jésus, le moyen de le retrouver. Je prie maintenant, Seigneur, que nous puissions toutes et tous vivre de ta présence et rayonner de ta gloire. En ton nom, Jésus. Amen.